Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui sera Bernard Tepper, président du LUFAL, l'Union des familles laïques. Alors j'avais entendu dire que fin octobre 2006, donc de cette année, le LUFAL avait été à l'initiative des examens, les états généraux de la santé et de l'assurance maladie. Alors je me disais que peut-être que ça pouvait être intéressant, j'avais pas pu y participer. Alors on a fait deux émissions avec Bernard Tepper. L'une, ça sera plutôt le constat autour des questions de santé et des problèmes d'assurance maladie. Et la deuxième émission tournera plutôt autour des propositions qui ont été définies dans un manifeste adopté à Bobigny le 22 octobre 2006. Alors voilà, la première question que j'ai posée à Bernard Tepper, c'était qui a participé à ces examens et finalement, c'était pour quoi faire.
Alors l'idée en fait, c'était d'adopter en fait un manifeste qui était un manifeste proposant une alternative au système actuel et proposait une alternative en fait à la libéralisation, à la privatisation, à la marchandisation de la santé et de l'assurance maladie, de la sécurité sociale d'ailleurs en général. Et pour lancer effectivement cette opération, nous avons rassemblé des associations, des syndicats, des mutuelles et des partis politiques, et puis s'est créé dans une majorité de départements, des collectifs locaux, départementaux et régionaux, des examens, qui en fait veut dire états généraux de la santé et de l'assurance maladie.
Là, vous venez de dire privatisation de la santé. Qu'est-ce qui vous permet, autorise de dire ça?
Ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde où la phase actuelle du capitalisme a comme caractéristique de privatiser, de marchandiser l'ensemble des activités humaines, et notamment des services publics et de la protection sociale. Et donc, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est cette marchandisation et cette privatisation, qui s'effectue d'ailleurs de deux façons, c'est-à-dire premièrement par une privatisation rampante du système de santé, où les politiques néolibérales favorisent l'émergence des cliniques privées contre les hôpitaux publics, et d'autre part favorisent la privatisation du remboursement des soins, en favorisant cette fois-ci les firmes multinationales de l'assurance contre le principe solidaire de la sécurité sociale.
Mais en quoi, par exemple, privatisation du remboursement, j'arrive pas bien à voir? Actuellement, par exemple, en France, quoi, effectivement, il y a une accentuation de la privatisation du remboursement.
Alors là aussi, c'est très simple. Je dirais, grâce à la sécurité sociale, les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945, il y a eu un système visant à rembourser les soins de santé par l'assurance maladie. Et petit à petit, et cela depuis maintenant, disons, un quart de siècle, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la tendance a été de diminuer les remboursements par la sécurité sociale et d'augmenter les remboursements par ce qu'on appelle la complémentaire santé. Et à l'intérieur de la complémentaire santé, il y a les mutuelles et les multinationales de l'assurance privée. Et chaque fois qu'on diminue les remboursements sécurité sociale et qu'on augmente les remboursements par la complémentaire santé, on favorise l'avènement en fait des multinationales de l'assurance, et donc petit à petit ces multinationales de l'assurance prennent une part de plus en plus grande dans le remboursement des soins.
À la limite on pourrait dire mais c'est égal pour la personne lambda qu'elle soit remboursée par la sécurité sociale ou par sa complémentaire, ça change pas grand chose.
Ça change beaucoup de choses pour la raison suivante. C'est que lorsque il y a remboursement par la sécurité sociale, ce remboursement se fait selon le principe de la solidarité. C'est-à-dire, chacun bénéficie du système selon ses besoins et chacun y contribue selon ses moyens. Le système de la sécurité sociale. Par contre, lorsque le remboursement des soins se fait par la complémentaire santé et par les firmes multinationales de l'assurance, il y a introduction, non pas du principe de solidarité, mais du principe de sélection par le risque. Et donc, dans ce cas-là, on paye en fonction du risque prévisible de la personne. Alors, je vais donner quelques exemples. On comprend bien qu'un jeune coûte moins à la sécurité sociale qu'une personne âgée. Je parle en moyenne, dans une tranche d'âge. Et que donc, la tendance, par exemple, pour la sécurité sociale, qu'on soit jeune ou qu'on soit âgé, à égalité de revenus, on a un prélèvement équivalent. Prélèvement qui finance la sécu. Eh bien, par l'introduction de la sélection par le risque des firmes multinationales, et maintenant de la plupart des mutuelles d'ailleurs, eh bien, on fait payer moins cher les plus jeunes et on fait payer plus cher les plus anciens. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que les plus jeunes ont tendance à aller dans les multinationales de l'assurance, ce qui fait que les multinationales de l'assurance gagnent quand même beaucoup d'argent parce que il y a, je dirais, peu de dépenses. Par contre, les mutuelles, il leur reste surtout les personnes les plus âgées, qui coûtent le plus cher, et ils n'arrivent plus à les financer. Et donc, l'introduction de la sélection par le risque détruit le principe de solidarité. Et que de ce fait-là, eh bien, plus les multinationales de l'assurance participent au remboursement des soins, et plus l'adage est vrai, celui qui dit que vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade, parce que bien évidemment, quand le principe de solidarité n'existe pas, eh bien forcément, les personnes les plus défavorisées, petit à petit, sont moins bien soignées que les personnes à catégorie aisée.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Bernard Tepper, président de l'Union des familles laïques. Alors j'écoutais très attentivement ce qu'il disait, mais vous allez voir, je suivais pas vraiment, je voyais pas quel était le problème. Et il va me répondre.
Tout à l'heure, vous disiez que la privatisation de la santé se faisait dans deux directions. D'une part, que la privatisation des remboursements, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, vous parliez aussi d'une privatisation rampante de la santé par les cliniques privées contre l'hôpital public. Moi, je vois pas le problème.
Oui, alors là, c'est encore assez simple. C'est un phénomène généralisé dans le monde. Si nous prenons, par exemple, en France, la réforme Juppé de la sécurité sociale a créé ce qu'on appelle des ARH, c'est-à-dire des agences de régionalisation hospitalière. Ces agences de régionalisation hospitalière donnent tout pouvoir au directeur de l'ARH, au directeur de l'agence de régionalisation hospitalière, qui a tout pouvoir, seul, de fermer un service et d'en ouvrir un autre dans un autre établissement. Et en général, ce qui se passe, je dirais depuis 1995, depuis que ces agences de régionalisation hospitalière fonctionnent, eh bien, il y a ce qu'on appelle la privatisation des profits et la socialisation des pertes. C'est-à-dire que ce qu'on remarque depuis maintenant plus de 10 ans, c'est que tous les secteurs rentables sont privatisés, c'est-à-dire que les directeurs d'ARH ferme les services dans les hôpitaux publics pour les ouvrir dans les cliniques privées. Et quelquefois, dans certaines villes, ça se passe dans la même rue, c'est juste en face. Le système a commencé sur, je dirais, principalement 3 secteurs, la cardiologie, la maternité, la chirurgie, la petite chirurgie. Il faut savoir que au moment où on parle, 90% de la petite chirurgie est privatisée. Et lorsqu'on va terminer le plan hôpital 2007, donc qui se termine dans peu de temps, eh bien, pratiquement, toute la petite chirurgie sera privatisée. Par contre, les secteurs moins rentables, comme par exemple la gérontologie, la gériatrie, eh bien ça reste dans l'hôpital public. Parce que effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à prévoir, et c'est beaucoup plus facile à gérer, par exemple, une simple appendicite, plutôt que de gérer une démence type Alzheimer. Et que de ce point de vue-là, on est rentré, ou par catégorie, par typologie de soins, eh bien, les soins rentables sont mis dans les cliniques privées, c'est ce que j'appelle la privatisation des profits, et les secteurs, je dirais, très dépensiers, comme la gériatrie, comme les urgences, eh bien, restent dans l'hôpital public, et j'appelle ça la socialisation des pertes.
Mais moi, j'arrive pas à voir la logique de la faire. En quoi un directeur de l'agence de régionale de régionalisation hospitalière, donc qui est quelqu'un qui appartient au secteur public, voit-il un quelconque intérêt à transférer les secteurs rentables au privé et de garder tous les secteurs qui sont pas rentables? C'est une balle dans le pied, le gars.
Alors, il y a bien sûr plusieurs raisons à ça. Le premier, c'est que on a affaire à en fait une sorte d'intégrisme économique. Ceux qui gèrent actuellement le système sont des gens qui sont des dogmatiques. Jusqu'ici, on parlait beaucoup des dogmes religieux. Il y a aujourd'hui des dogmes financiers. Et donc, le néolibéralisme, c'est en fait une idéologie qui part du principe que dans un secteur privatisé, c'est forcément mieux géré, plus rentable. Et il y a une sorte d'idéologie que quand c'est privatisé, il y a moins de gaspillage. Alors que, en réalité, on voit bien dans toute une série de secteurs que la privatisation aboutit, en fait, à une augmentation des dépenses. Alors l'exemple le plus... Il y a un exemple chiffré que l'on peut facilement donner. Pratiquement tous les pays développés du monde sont à dominante publique sur le plan de la santé. Il n'y a qu'un seul pays qui est majoritairement privatisé, c'est les États-Unis. Eh bien, aux États-Unis, les dépenses de santé représentent 13,6% du PIB, donc produit intérieur brut. Ça équivaut à la richesse produite en une année par les travailleurs français étrangers sur le territoire national. Eh bien, 13,6% de cette richesse correspond aux dépenses de santé aux États-Unis, alors qu'en France, c'est 9,7%. En Grande-Bretagne, c'est 8%. En Allemagne, c'est 10%. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle néolibéral que représentent les États-Unis ont des dépenses de santé de plus de 40% plus élevées que les dépenses dans tous les pays, je dirais, à dominante publique. Et ça s'explique très bien. C'est-à-dire que dès que vous privatisez, vous rentrez dans un secteur à but lucratif et il faut, je dirais, financer les actionnaires. Alors, il suffit, par exemple, que vous ayez besoin de 10 à 15% pour financer les actionnaires, plus 10 à 20% pour faire de la publicité, pour expliquer que telle clinique est meilleure que l'autre ou que tel médicament est meilleur que l'autre. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, la publicité sur les médicaments est autorisée. Ce qui fait que, contrairement à ce qui se passe en France, aux États-Unis, on dit, eh bien, prenez tel médicament, il est meilleur que l'autre, alors que les produits constituants sont les mêmes. Donc en fait, les frais de publicité et la rémunération des actionnaires, c'est quelque chose qui, en général, correspond à des montants de 20 à 30% du chiffre d'affaires. Alors que, par exemple, quand il y a une gestion par la sécurité sociale, il y a 4 à 6% de frais de gestion, et que le gaspillage, par exemple, sur l'assurance maladie, c'est-à-dire sur un budget d'environ 150 milliards d'euros, en France, disons que le gaspillage, il est chiffré entre 1 et 3 milliards d'euros, ce qui est, bien évidemment, très nettement inférieur au déficit comptable de la sécurité sociale. Et donc voilà pourquoi effectivement la privatisation augmente les dépenses. Et donc si vous privatisez, vous augmentez les dépenses et donc vous avez tendance à diminuer les remboursements. Et donc les dépenses augmentent fortement et on diminue les remboursements. Chaque fois que vous avez un système où vous diminuez les remboursements, vous mettez en difficulté les catégories les plus défavorisées de la société. Et que donc, de plus en plus, y compris dans un pays comme la France, eh bien, il y a toute une série de personnes qui ne participent plus aux soins, que ça soit aller chez le dentiste, etc., etc.
Des souhaits des hommes sur Allégre FM. On est toujours en compagnie de Bernard Tepper, président de l'UFAL. Alors la dernière fois, je ne voyais pas le problème, et là, vous allez voir, je ne comprends pas la logique. Ça ne s'améliore pas.
Tout à l'heure, vous avez dit que dans le système néolibéral, il y avait une augmentation des dépenses. Bon, ça, je peux avoir compris avec ce que vous venez de me dire, mais une baisse des remboursements, et là, je comprends pas. Pourquoi, effectivement, faire baisser les remboursements? Quelle est la logique?
La logique, en fait, elle est assez simple, mais peut-être un peu plus longue à expliquer. Le néolibéralisme, il a comme volonté, en fait, de modifier la répartition de la richesse, c'est-à-dire de diminuer la part des revenus du travail et des cotisations sociales et d'augmenter la masse des profits. Comme l'ensemble de la sécurité sociale est basé sur les revenus du travail et les cotisations sociales, plus vous diminuez en part de richesse produite la part des revenus et des cotisations sociales, et il y a un moment, vous arrivez à un moment où il y a un déficit comptable de la sécurité sociale, ce qui existe en France depuis quelques années. Et à ce moment-là, comme les néolibéraux ne veulent pas modifier en fait leur pensée dogmatique, ils disent il faut donc diminuer les remboursements. En diminuant les remboursements, ils pensent comme cela juguler le déficit comptable de la sécurité sociale. Et donc la tendance à la diminution des remboursements est liée à la volonté de combattre le déficit de la sécurité sociale. Alors vous allez me dire, oui, mais lorsque on dépense plus d'argent qu'on gagne, c'est normal qu'on essaye de diminuer les dépenses, c'est ce que fait, je dirais, toute famille avec son budget propre. Le problème, c'est qu'en fait, il faut comprendre qu'en 25 ans, la part des revenus du travail et des cotisations sociales a baissé de 10 points. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, dans la répartition de la richesse entre revenus du travail, cotisations sociales d'un côté et profit de l'autre, il y a eu une modification du curseur en 25 ans. Si le curseur était placé aujourd'hui de la même façon que dans les années, au début des années 80, eh bien on aurait 170 milliards d'euros en plus par an. Donc forcément, on fait une ponction de 170 milliards d'euros et on s'étonne qu'on aboutisse à un déficit comptable de la Sécu, disons, d'environ 10-12 milliards d'euros. Et donc, on est rentré dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, comme on veut augmenter les profits, on diminue les revenus du travail et les cotisations sociales, on diminue en pourcentage de richesses produites toutes les rentrées à la Sécu, on met la Sécu en déficit, et on dit, il faut diminuer les remboursements, puisqu'on n'a pas assez d'argent pour rembourser correctement. Et c'est un mouvement perpétuel, comme ça, qui fait que... C'est pour cela qu'il faut changer, les grands intellectuels disent qu'il faut changer de paradigme, il faut effectivement modifier la logique. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous proposons de rompre avec le néolibéralisme et de faire des propositions alternatives qui sont contenues dans le manifeste que nous avons adopté à Bobigny le 21 et le 22 octobre dernier.
Oui, c'était des sous et des hommes en compagnie de Bernard Tepper de l'Union des familles laïques, l'UFAL. Alors, cette semaine, on a vu le constat sur les problèmes de santé et d'assurance maladie, mais il était impératif de voir des propositions, d'autant plus qu'un manifeste avait été adopté aux examens, aux états généraux de la santé et de l'assurance maladie, qui avait été impulsé par l'UFAL. Donc, la semaine prochaine, nous allons passer aux propositions. Voilà, à la semaine prochaine.